Merci beaucoup. Et c'est le moment pour chacun d'entre nous de mettre notre téléphone mobile sur la position éteint ou bien avion. Parce qu'il y a un certain nombre de femmes ici, certaines peuvent être enceintes, on est nombreux et donc il est important de ne pas mettre sur silencieux, ça n'est pas suffisant pour protéger les fœtus dans le ventre des mamans. Donc, je mets mon téléphone sur hors ligne. Et comme je suis électrosensible, vous aurez une meilleure conférence en étant sur hors ligne. Sinon, je suis là, j'ai du mal à me concentrer. Là, tout va bien. Merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir de pouvoir partager avec des parents intéressés à modifier peut-être leur façon de voir et leur façon de parenter et leur relation avec leurs enfants. Vous êtes là parce que vous avez probablement envie d'améliorer encore les choses, d'être encore plus heureux avec vos enfants. Parmi vous, combien ont des enfants de moins de 3 ans? Eh bien, un certain nombre. Entre 3 et 7 ans, waouh, petite majorité. Entre 7 et 12, encore. De 12 à 18, eh, il y a des ados aussi. De 18 à 35, eh oui. Et qui a des parents? Bon, donc on est tous concernés par la conférence. C'est déjà une bonne chose. Commençons par une petite méditation. Fermons les yeux. Respirons, sentons le contact du sol sous nos pieds. Ah, je m'installe, je m'accueille dans la chaise ici, dans cette salle. Je remonte dans mon passé et je me souviens avant d'avoir un enfant. Je me rappelle de ce que je me disais avant d'avoir un enfant sur l'enfant futur que j'aurai. Je me souviens de comment je voyais ça, de mes espoirs, de mes vœux, de mes décisions, mes engagements. Avant d'avoir un enfant, oh, je vois tout ce que j'anticipais. Je perçois, je me souviens de mon désir d'enfant. Et puis, j'ouvre les yeux sur ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que ça ressemble? Pas toujours. Alors oui, c'est sûr que avant d'avoir un enfant, on se projette dans le positif. On ne se dit pas « Oh là là, il ne va jamais vouloir manger ses carottes râpées ». Non, on se dit « Le mien, il ne sera pas comme tous ces enfants mal élevés. Le mien, il mangera tout ce qu'on lui donnera. Le nôtre, jamais il ne regardera la télévision, les écrans, etc. On ne lui achètera pas de portable avant au moins 13-14 ans. » Le nôtre, il sera bon à l'école, il rangera sa chambre, il s'habillera tout seul quand ce sera l'âge de s'habiller tout seul. Il fera pas pipi au lit. Bref, forcément, quand on rêve de son enfant, on l'imagine parfait, même plus que parfait. On imagine un enfant idéal. Comme on n'en a pas encore, on n'est pas au courant. Et avant d'avoir un enfant, on est tous de parfaits parents. On sait tous exactement ce qu'il faut faire dans chaque circonstance. Nous, nos enfants, ils se mettraient pas à hurler comme ça dans les supermarchés. Là, vraiment, ces parents ne savent vraiment pas y faire. On se coincerait pas là à acheter une énième petite totote à l'enfant, un énième petit jouet alors qu'il en a déjà 25. Non. Nous, on sait exactement comment on fera. Donc, avant d'avoir un enfant, tout est merveilleux. Et puis, on a l'enfant en question. Et alors là, on est bouleversé parce que parfois, on éprouve un amour si intense que jamais on n'aurait imaginé ça. Jamais, même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait imaginé qu'on ressentirait autant d'amour. Et puis, il y a d'autres moments, on a l'impression d'être tout simplement plongé dans un cauchemar ou dans un très mauvais film, où on se retrouve à hurler, tempêter, à taper même parfois, alors qu'on avait décidé que jamais ça nous arriverait. On se retrouve à laisser l'enfant manger n'importe quoi, on se retrouve... Bref, on est démunis. Et souvent, on ne s'aime pas beaucoup dans ce parentage. Nous nous surprenons à ne pas être le parent que nous avions envie d'être. Et c'est extrêmement douloureux. Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons si démunis? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons des réactions si puissantes? Parce qu'on le sent parfois, ça vient de loin, on sent la gifle qui monte et elle frappe et on se dit « mais je viens de faire comme ma mère, pourquoi je fais ça ?» Et oui, c'est le sens de notre conférence ce soir. Nous allons évoquer ce qui se passe à l'intérieur de nous parents pour que nous réagissions comme nous réagissons. Un enfant renverse son verre. La mère voit ça et elle hurle « Qu'est-ce qui m'a donné un enfant pareil ?» Qu'est-ce qui fait que si c'était notre ami qui vient prendre le thé et même si elle casse la tasse qui nous a été offerte par la grand-mère, une tasse hyper chère en porcelaine, je sais pas quoi, même si elle la casse, on va jamais lui dire « Qu'est-ce qui m'a fichu une amie pareille ?» Non, on va tout de suite lui dire « T'inquiète pas, c'est pas grave. » Et on va nettoyer et on va chercher à faire en sorte de soulager la personne de la honte, de la gêne qu'elle va éprouver quand elle a cassé quelque chose. Qu'est-ce qui fait que quand c'est notre enfant, qu'on aime beaucoup plus que la copine, notre enfant, c'est notre enfant, je dirais, vraiment, on l'aime profondément. Et pourtant, on va lui crier dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on devient cette femme-là, cet homme-là, qui se met à punir, crier, tempêter, ou bien à ne pas savoir quoi faire, ou bien à s'en aller, j'en peux plus. Bref, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à être le parent que nous voudrions être? Souvent dans les conférences, le conférencier ou la conférencière, en l'occurrence conférencière, parle, et à la fin de la conférence, il y a un temps de questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les questions. Je vous propose de vous mettre 6 par 6. Les 3 de devant se retournent vers les 3 de derrière. Comme ça, on n'a pas besoin de bouger les chaises. On va commencer de devant jusqu'au fond. Vous allez vous mettre 6 par 6 et par 6, chacun évoquer une situation difficile en tant que parent. Voilà une situation, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Vous décrivez la situation, ou peut-être une situation entre deux parents, bref, une situation précise. Je vous donne 7 minutes, pas une de plus, pour évoquer, pour que chacun dans le petit groupe de 6 ait l'occasion de dire une situation, que vous choisissiez une des situations et que vous l'écriviez sur un petit bout de papier. Ensuite, on va ramasser tous les bouts de papier et je tirerai les papiers et je bâtirai ma conférence sur vos questions. Vous êtes prêts? On y va. Mettez-vous en groupe. Quand je vois que vous êtes en groupe, je déclenche mon timer. Thank you. monde est installé? Presque. J'attends encore un tout petit peu. Allez, 7 minutes commencent maintenant. Minutes. Vérifiez que chaque personne s'exprime dans le petit groupe de 6. plus que 2 minutes, il est temps de synthétiser. De choisir une question et de l'écrire sur un petit morceau de papier. Vont commencer à passer, vous commencez à faire passer les petits papiers sur les côtés. Et voilà, le temps est écoulé. Papier sur les côtés. Voilà, et la petite boîte. Faites passer. Par ici devant, Nathalie, il y en a encore. Petit, les papiers vont venir vers moi. Allez, les papiers vont venir vers moi, même s'il y en a quelques retardataires qui viendront un peu plus tard, ici. Il y a encore un papier là-bas. Ici, au milieu, il faut le faire passer sur les... Allez, allez, les papiers viennent vers moi. Que je commence à tirer. Merci beaucoup. Oh là 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 là! Eh bien, vous avez écrit. J'ai jeté un œil, il y a déjà des questions très très longues et d'autres beaucoup plus courtes. Alors d'abord, on se pose tous des questions. Que faire vis-à-vis de cet enfant qui vient de renverser son verre? Il a renversé son verre. Pour quelle raison je lui crie dessus? Comment comprendre ce qui m'arrive? Hop. Voilà. Alors, première question, comment faire face à un enfant de 4 à 6 ans qui tient tête? Déjà, on a un souci. Comment faire pour faire respecter une consigne? On avait la consigne de centrer nos questions sur nous-mêmes en tant que parents. Et voilà une première question sur l'enfant. Comment faire face à l'enfant? Et voilà, même les parents, on ne sait pas respecter les consignes. Hein. Donc, j'observe que vous m'avez tenu tête. Vous, vous avez envie de savoir des choses sur comment faire face à un enfant qui tient tête. Et moi, j'avais un autre projet qui était de faire une conférence sur ce qui m'arrive à l'intérieur de moi, peut-être quand mon enfant me tient tête, mais pas sur comment lui faire face. Donc voilà, on est dans une double signification, vous me tenez tête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous mets des limites? Ou bien est-ce que je me dis que peut-être, si vous me tenez tête, c'est que vous avez un vrai besoin? Que vous avez besoin d'entendre une réponse à ça. C'est ça qu'on peut se dire. Quand l'enfant nous tient tête, déjà, c'est quand même fabuleux s'il sait nous tenir tête. Peut-être on peut être vraiment content. Je ne sais pas quel âge, 4 à 6 ans. Si à 4 à 6 ans, il est capable de me tenir tête, je peux peut-être faire confiance sur le fait que à 14 ou 15 ans, il saura dire non quand on lui proposera des substances, que dans sa vie, il saura dire non quand quelque chose ne lui conviendra pas, ne rentrera pas dans ses valeurs. Donc si mon enfant me tient tête, peut-être je peux lui dire « Waouh, on dirait que tu es un humain ». Un humain, ça a un cerveau préfrontal, ça décide pour soi. Ça aime décider pour soi-même. Voilà. Ah oui, mais ça continue. Comment résoudre les conflits sur l'électronique? On va voir s'il y en a... Voilà, ça, les conflits de couple, ça, c'est bon. On est irrité face à une réaction, une attitude de l'enfant qui n'est pas comme on attend qu'il soit. Ben oui. C'est vrai. On pense que la vie, ça devrait être tranquille et que les choses s'enchaînent comme ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui grippe, qui n'est pas comme nous on avait projeté, l'enfant ne veut pas mettre ses bottes. L'enfant a des mauvaises notes, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas comme on espérait, qui n'est pas comme on attendait. C'est très délicat de dire qu'on est irrité. Quelquefois c'est plus. Quelquefois on sent vraiment que la moutarde nous monte au nez, quelquefois on est exaspéré. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que dans toutes sortes de situations, quand il y a un problème, on se dit « Ah, ah, il y a un problème, j'ai un problème à résoudre ». Mais dès qu'il se passe quelque chose de bizarre ou différent avec nos enfants, on se dit « Ah, là, enfin on se dit rien ». Avant même qu'on réussisse à se dire quoi que ce soit, on a déjà commencé à hurler, punir ou trembler. Nous réagissons à nos enfants de manière excessivement émotionnelle. C'est comme si, dès qu'on avait un enfant, piouk, on était décérébré. On n'a plus les zones associatives, on ne réfléchit plus, on réagit. Et quand on nous pose la question poser des questions, on demande des questions sur comment faire. Tout de suite, avant même de réfléchir et de comprendre. L'enfant renverse son verre. Si j'ai tout mon cerveau à disposition, je réfléchis. Je me dis, quel est le besoin de mon enfant? Je suis parent, donc j'ai quand même son éducation à faire, tandis que ma copine, j'ai plus son éducation à faire, c'est pas mon problème. Donc là, quand même, j'ai une petite responsabilité en plus. ça n'empêche que mon enfant, il vient de casser un verre, juste de faire répandre son verre, comment il se sent à l'intérieur ? Il se sent comme tous les humains qui viennent de casser quelque chose. Il se sent comme ma copine, gêné, honteux, et peut-être il a peur de ma réaction. De quoi est-ce que ma copine a besoin ? Rappelez-vous, ça vous est arrivé un jour de faire une tâche sur la nappe chez des amis ou de renverser une tasse, de renverser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là ? Vous êtes gêné, vous avez honte et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De vous excuser, bien sûr. Et puis, ça suffit souvent pas. Qu'est-ce qu'on va faire après ? On va réparer, bien sûr. Oui, on a besoin de pouvoir réparer. Et le plus souvent, la maîtresse de maison ne nous laisse pas réparer tout seul et elle nettoie notre place, etc. Ça n'empêche que si on a cassé quelque chose, on va souvent réparer ou bien rapporter quelque chose à la personne, lui repayer, etc. On éprouve ce besoin de réparer. Et on est vraiment bien qu'une fois qu'on a pu parler de ce qui s'est passé et réparer. Donc, mon enfant qui a renversé son verre, c'est un humain aussi. Donc, il se sent honteux, coupable, et il a besoin de savoir réparer. Donc, en tant que parent, si j'ai tout mon cerveau à disposition, eh bien, je lui dis quoi ? Je lui dis « Oh ! De l'eau est renversée. Vite, il y a une éponge sur l'évier. » Et je bouge pas, hein. Parce que genre les mamans, surtout les mamans, on est là, ouais, qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil ? Après ça, on va prendre l'éponge et on fait, si tu crois que j'ai que ça à faire ? Et on s'énerve et tout. Et puis après, on va lui dire, quand il aura grandi un petit peu, tu ne fais jamais rien. Mais on ne lui aura surtout pas enseigné. À chaque fois, on fait à sa place, on s'énerve et bref. Donc, si j'ai mon cerveau à disposition, je prends conscience des émotions de l'enfant, de ses besoins, et je lui enseigne la ressource dont il a besoin pour gérer la situation. Seulement voilà, 99% du temps, on n'a pas notre cerveau à disposition. On est juste dans l'énervement, on est dans le stress. Comment aider les enfants à ranger leur chambre ? Mon fils vient dans mon lit. Alors, ça, c'est plus parent. Comment gérer les conflits entre enfants ? Décidément, deux enfants se battent avant de partir à l'école. On est stressé, on est bien. En fait, c'est tous. Voilà, le problème, c'est si j'ai mon cerveau à disposition, je vais pouvoir savoir faire tout ça. Tout le monde sait. Il a dit tout à l'heure que j'étais une experte. Mais non, je ne peux pas être une experte pour vos enfants. Vous êtes les experts pour vos enfants. Le papa, la maman sont les experts de leurs enfants. Ne laissez jamais aucun expert avoir plus d'expertise que vous. La seule chose dont vous avez besoin, c'est bien sûr quelques idées, parce qu'il y a des trucs auxquels on ne pense pas, mais c'est aussi surtout de pouvoir calmer ce stress à l'intérieur de soi. Calmer ce stress intense que nous éprouvons. J'aimerais bien en trouver une qui soit sur le sujet du ce soir. Oups. Bon, prenons ça. Comment gérer l'opposition ? Tant pis, je fais avec, hein, puisqu'il y a de l'opposition dans la salle. Comment gérer l'opposition ? L'opposition, c'est un peu comme du lait qui déborde. Un comportement est débordant. un comportement excessif. L'enfant vient dans mon lit, toutes les choses que j'ai lues là. Il refuse de coopérer alors qu'il est l'heure et je lui ai dit 5 fois de mettre ses chaussures. Le lait déborde. Qu'est-ce que vous faites dans votre cuisine quand votre lait déborde? Est-ce que vous mettez un couvercle dessus? Alors, pourquoi ça ne marche pas? Vous avez que là, il y a pour rien, moitié de mon truc qui s'affiche là. Bon. Voilà, il me manque la moitié de la diapo. Donc, l'autre moitié de la diapo, quand le lait déborde, inutile de chercher à mettre un couvercle sur le lait. Si vous essayez de mettre un couvercle sur le lait qui déborde, ce qui va se passer, c'est que d'abord, il faut appuyer de plus en plus fort parce que le lait va quand même couler sur les côtés et qu'au bout d'un moment, eh bien, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à faire brûler le fond de la casserole. Donc, quand le lait déborde, c'est pas la peine de mettre des limites au lait. Il vaut mieux éteindre le gaz. C'est bien plus tranquille. Nous, les parents, quand les comportements de nos enfants débordent, il est important que, plutôt que de mettre des limites au comportement, au débordement, nous sachions réfléchir avec notre cerveau pour éteindre le gaz. Pas évident, parce qu'on est tellement sous pression, c'est comme s'il fallait réagir immédiatement. Dès que notre enfant ne veut pas mettre ses chaussures ou bien oublie son cartable pour aller à l'école, on se dit « Ah, il ne va pas avoir son bac !» C'est immédiatement des drames, tout le temps, surtout pour les mamans. Tout devient existentiel. On doit être au contrôle permanent. Et si les choses ne fonctionnent pas pile poil, on est stressé comme tout. Mais qu'est-ce qui nous met dans un état pareil? Inutile donc de mettre le couvercle, mieux vaut éteindre le gaz. Alors là, c'est pareil, j'ai moitié de la diapo. Bon. Ah ben, c'est l'autre moitié. Mais ce qui est clair, c'est que notre réaction, elle n'est pas, ou rarement, et j'exagère en disant que ça n'est pas, il y a des tas de fois où on est parfait. Alors là, carrément, ça me fait diapo noire, c'était vraiment intéressant. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe. J'avais réussi à mettre mieux. Ben, on va le garder comme ça, hein. Ça va peut-être être plus simple. Est-ce que comme ça, ça fonctionne? Non plus. Bon, il y a un grand mystère. Donc, la réaction que nous, les adultes, nous avons face à nos enfants, elle est rarement réfléchie. On ne prend même pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on se comporte comme ça? Le stress. Le stress nous fait agir de manière complètement irrationnelle. On va punir les enfants. On sait que c'est pas efficace. Jamais une punition n'a été efficace pour qui que ce soit. On continue quand même. On va gifler, on va crier, ou on va... Bref, chacun en a nos comportements spécifiques. On essaye de faire du chantage, on essaye toutes sortes de trucs qui ne marchent pas. Et plus ça ne marche pas, plus on le refait. Ben oui, c'est un des seuls secteurs où on refait systématiquement ce qui ne marche pas. C'est fréquent que des parents me disent « Mais je peux lui crier 20 fois la même chose avant qu'il obéisse. » 20 fois? Mais comment ça se fait qu'on crie 20 fois? Je veux dire, dans n'importe quel métier, un truc qui ne marche pas, on ne le refait pas en général. Mais là, ça montre bien que c'est pas conscient. Nous n'agissons pas comme ça, c'est pas notre désir. Nous croyons que nous avons des idées sur l'éducation et que nous agissons selon ces idées. Certaines personnes croient que Ah, moi je pense que c'est important d'être autoritaire, ou alors moi je pense que c'est important une éducation bienveillante, etc. Tout ça, ça n'existe pas en réalité, parce qu'en réalité, il y a juste nos comportements quotidiens, et après, on observe nos comportements, et puis, après on va justifier nos comportements. Mais globalement, on n'a pas des idées sur l'éducation. On se construit des idées pour expliquer nos comportements. D'où viennent donc ces comportements si improductifs et qu'on continue à avoir ? Le stress, c'est notre petite amygdale dans le cerveau qui est responsable de tout ça. L'amygdale, elle est là, le point rouge, elle est plus petite que ça, hein. Là c'est le point rouge, c'est pour qu'on voit. L'amygdale, ou les amygdales, parce qu'on en a deux, alors c'est pas du tout les amygdales qu'on a dans la gorge, ce sont les amygdales du cerveau. La seule ressemblance entre les deux, c'est la forme, c'est un noyau en forme d'amande. L'amygdale est responsable de la réaction de stress et elle va déclencher dans l'organisme différentes réactions. Elle va déclencher ce qui me permet de réagir face au stress et surtout face au stress intense, au danger. Lorsqu'il y a un tigre qui me fonce dessus, je dois réagir très vite. Et donc, hop, je lui fais face et j'attaque. Enfin, j'attaque si j'ai de quoi attaquer. Si j'ai pas de quoi attaquer, je fuis très vite. Donc, il y a deux réactions mobilisées par le système sympathique. Attaque ou fuite. Quelquefois, on peut ni attaquer ni fuir. Et donc, c'est le système parasympathique qui se met en branle. Et là, je me fige. Je suis en inhibition de l'action. Attaque, fuite, figement. Nombre de nos réactions vis-à-vis de nos enfants sont de l'attaque ou bien de la fuite, ou bien on se fige. Tout simplement parce que nous sommes sous stress. Ça n'est pas parce que nous sommes de mauvais parents. Ça n'est pas parce qu'on est nul en parentage. Ça n'est pas parce qu'on ne sait pas y faire. Non, c'est juste que notre cerveau est prisonnier de la réaction de stress. Qu'est-ce qui nous stresse tant ? Qu'est-ce qui nous stresse tant ? Eh bien, tout d'abord, pour les mamans, la première année de vie d'un enfant, une maman perd 600 heures de sommeil. En moyenne. En moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui en perdent un peu moins, mais il y en a qui en perdent beaucoup plus. Vous imaginez 600 heures de sommeil en moins ? C'est difficile d'être vraiment patiente. Le stress, c'est pas seulement parce qu'on a des problèmes financiers. Bien sûr que tout ça, ça se surajoute. Si en plus je n'ai pas de sécurité financière, si en plus mon conjoint n'est pas là pour m'épauler, ça peut être bien plus difficile. Mais ne serait-ce que ça, 600 heures de sommeil en moins. Je défie quiconque d'être une bonne mère, tranquille, à l'écoute, 24 sur 24, 7 sur 7, hein, avec 600 heures de sommeil en moins. Et puis, non seulement on dort moins, mais c'est dur d'être une maman d'un tout petit bébé. Le tout petit bébé, on ne peut pas parler beaucoup avec. C'est pas très gratifiant. Aujourd'hui, les mamans sont extrêmement isolées avec leur enfant. Avant, il y avait tout de suite une tribu de mamans. Il y avait plein de gens autour d'un bébé. D'autres enfants, des oncles, du monde. Aujourd'hui, la plupart des mamans sont toutes seules avec leur tout petit bébé. Et pendant de nombreuses heures dans la journée. Bien sûr qu'elles sont heureuses profondément. Pas toutes, on le verra, quelquefois c'est vraiment très difficile. Mais même une maman qui n'a pas de soucis spécifiques, être 24 heures sur 24 avec un tout petit bébé, c'est dur, c'est difficile. Et il y a un papa, vous me direz. Oui, les papas, statistiquement, pas les papas d'ici, hein, les papas d'ici, de toute façon, vous êtes là déjà, vous venez, super. Mais les autres papas, statistiquement, dès qu'ils ont un bébé, ils restent une demi-heure de plus au boulot. Histoire d'éviter le coup de feu de 18 heures. Et oui, il y a même des entreprises qui ont décidé de fermer à 17h30. Eh bien, les papas restaient dehors sur le pas de la porte à fumer la cigarette avant de rentrer chez eux, pendant au moins une demi-heure. Qu'est-ce que c'est ? Fuite. C'est le stress, là aussi. Mesurons, avant de juger, que si les papas font ça de manière statistique, c'est que ça correspond à un vrai besoin. C'est paniquant d'avoir un bébé pour un papa. Les papas, des papas qui sont ici, ne se sont jamais occupés de vous, probablement. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui devient papa, son propre père n'était pas là quand lui il est né, s'est très peu occupé de lui, et donc, faire face, moi, en tant que père, à un tout petit nourrisson, c'est oser sentir dans mon corps énormément d'insécurité, tolérer dans mon corps de la colère vis-à-vis de mon propre père, de la peur de ce qui risque de se passer avec cet enfant, de la honte parce que je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, toutes sortes d'émotions. Les mères ont exactement les mêmes émotions, hein, parce que leur mère était là, mais pas forcément là vraiment. Seulement, voilà, les mères, elles sont obligées d'être là. C'est le rôle, c'est écrit. Et c'est comme si tout le monde attendait des mères qu'elles sachent. Donc, une mère, une bonne mère, c'est presque un pléonasme. Une mère, c'est patient, ça sait exactement la marque des couches qu'il faut prendre, c'est inscrit dans notre cerveau. Elle sait quel pédiatre il faut consulter. Bref, une mère est censée tout savoir à propos d'un bébé. Évidemment, elle n'en sait pas plus qu'un garçon. Elle débarque totalement aussi. Surtout qu'il n'y a pas eu la transmission mère-fille. Ça, c'est fini. Donc, mais seulement, on n'est pas, on ne peut pas le dire. On n'a pas le droit de le dire parce que sinon, on se sentirait une bonne mère. Donc la mère se sent coupable de ne pas pouvoir être une bonne mère. Elle éprouve toutes ces sensations. Ce petit bébé la renvoie aussi à beaucoup d'insécurité et à beaucoup de douleurs de sa propre enfance, mais elle est de toute façon obligée d'être là. Alors, de temps en temps, quand même, elle s'occupe à faire la vaisselle, à nettoyer, à faire toutes sortes d'autres choses que de s'occuper du bébé. C'est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux, quelquefois, faire garder son enfant. C'est très difficile de rester face à un enfant toute la journée. En plus, le papa, quand il rentre, qu'est-ce qu'il dit ? Là, je caricature, hein, ça ne vous concerne pas ce soir. Le papa, il arrive. J'ai pas mis ma zapette assez près là, voilà. J'ai besoin d'un moment de décompression. Parce que toi, t'étais à la maison toute la journée, mais moi, j'ai bossé. Et il décompresse. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ? Comment ça, rien, t'as pas eu le temps ? Mais t'as que ça à faire ! Et ça, c'est pas facile, parce que quand on est une maman, on sait qu'on sait pas du tout ce qu'on a fait de toute la journée, mais on n'a pas eu une minute à soi. On n'a même pas pu boire un café. Il n'a pas été question une demi-seconde de manger chaud quelque chose. On ne sait pas à quoi on a passé notre temps, parce que c'est ça qui est le problème aussi. Quand on bosse au bureau, on remplit un dossier, au bout d'un moment, le dossier est rempli, c'est fini. Mais avec les bébés, pas du tout. C'est tout le temps à refaire, on ne comprend rien, ça continue, il y a tout le temps un truc à faire. On nettoie la couche, ok, oh, il faut la renettoyer. Bref, ça ne s'arrête jamais. On n'a jamais le sentiment du devoir accompli. Donc on a très peu de gratification. Et quand en plus il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit « t'as pas encore fait à manger » et qui ne nous dit pas « c'est vrai, ça nous ferait plaisir » si le papa arrivait le soir et disait « oh, je te remercie d'avoir changé 7 fois la couche dans la journée ». On rigole tellement c'est irréaliste, hein, mais ça nous ferait vraiment du bien. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder notre enfant dormir. Je te remercie d'avoir allaité notre enfant. Je te remercie d'avoir préparé son biberon. Je te remercie de l'avoir trimballé au square. Je te remercie de tout ce que tu as fait. C'est vrai, ça ne se voit pas, mais on a besoin de ça. Et quand on ne reçoit pas ces remerciements, eh bien, hop, ça augmente le stress à l'intérieur de nous. La fatigue, le manque de reconnaissance, l'impression que tout est toujours à refaire, l'impossibilité totale de maîtriser son temps. Quand on n'a pas d'enfant, on maîtrise son temps. On décide qu'on part à 11h, on part à 11h. Si on sait qu'on veut partir à 11h et qu'on a un enfant, 2 ou 3 enfants, alors là, on commence à 7h du matin à se préparer. Parce qu'il faut anticiper tout. Et évidemment, à 11h45, on est enfin dans la voiture, on a réussi à en attacher un, et à ce moment-là, il y a l'autre qui dit « Maman, je veux faire pipi !» Et tout est à recommencer. Et du coup, souvent, ben, on ne sort plus parce qu'on se dit « c'est vraiment trop compliqué ». Tout ça épuise profondément la maman. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans dépressives quand elles restent à la maison ou qui vont mal physiquement même, parce que quand on a trop de stress comme ça, c'est trop de fatigue sur notre organisme. Et alors, quand je suis fatiguée comme ça, quand c'est difficile, quand je ne reçois pas la reconnaissance dont j'aurais besoin, quand je n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit, parce que bien sûr qu'on contrôle toutes sortes de choses, mais la maman a souvent l'impression qu'elle n'a plus aucun contrôle sur rien. Et du coup, elle panique et elle se sent une mauvaise mère. Elle compare sa maison avec la maison de sa grand-mère et elle se dit « Oh là là, moi, c'est pas repassé là. » Et donc elle se culpabilise de ne pas faire aussi bien que sa mère, sa grand-mère, en oubliant qu'elles étaient très aidées, celles-là peut-être, et qu'elles s'occupaient peut-être pas aussi bien de l'enfant. Bref, la maman se culpabilise. Et quand la maman se culpabilise, elle regarde son enfant et si je me sens une mauvaise maman, du coup, je ne suis pas confortable avec mon enfant. Je suis légèrement tendue. Et le simple fait d'être si mal à l'intérieur, ça me refroidit. Ça me fait une légère distance à l'enfant. L'enfant immédiatement le sent, le perçoit. Et du coup, il va réagir plus fort, il va pleurer, il va chercher à attirer mon attention. Et donc, moi qui suis déjà fatiguée, j'ai un enfant qui pleure encore plus. Et l'enfant pleure encore plus, et moi j'en peux plus à l'intérieur, et je sais plus quoi faire. Et donc au bout d'un moment, j'en peux plus, j'ai que envie de le secouer, de faire quelque chose, de le jeter par la fenêtre. Je ne le jette pas par la fenêtre. Quelquefois, je secoue. Je sais qu'il ne faut pas secouer. Je m'en veux. Je me sens tellement coupable. Alors, je me distancie. Et quelquefois, à l'intérieur, on s'éloigne de l'enfant. On s'éloigne affectivement de l'enfant. On s'éloigne affectivement de nous-mêmes. Et on s'en veut. Et on se culpabilise de s'éloigner comme ça. et du coup, notre culpabilité renforce le problème. Plus on se sent coupable, moins on va être centré sur l'enfant. Plus on se sent coupable, plus on va s'éloigner de l'enfant. Nous voulons trop être de bonnes mères. Et c'est vraiment important. Dès que maintenant vous vous direz dans votre tête « Ah, il faut que je sois une bonne mère », hop, on attrape cette histoire de bonne mère et on met ça à la poubelle. Il n'y a pas de bonne mère. Parce que s'il y a des bonnes mères, ça veut dire qu'il y en a des mauvaises. Il n'y a ni bonne mère, ni mauvaise mère. Il y a juste des mères qui galèrent. Et si je me dis, au lieu de me dire « je ne suis pas une bonne mère », si je me dis « je galère », je dis « ok, je galère, qu'est-ce qui me fait galérer? Où est mon problème? Je peux peut-être résoudre la situation. » Mais si je me dis que je suis une mauvaise mère, ça va faire que aggraver le problème de plus en plus. Plus je me sens mauvaise, plus l'enfant va réagir, chercher mon attention, et plus ça va enclencher le système. Nous avons donc le stress. Ce stress est lié à toutes sortes de choses. Donc voilà, punir, crier, menacer, frapper, sortir de la pièce en claquant la porte ou laisser faire le comportement de l'enfant sans intervenir. Tout ça, ce sont des comportements excessifs qui sont liés au stress. Qu'est-ce qui déclenche notre stress? Alors normalement, c'est chic mon truc, les trucs apparaissent les uns après les autres. Mais bon, là... Donc, chacun a son déclencheur. Quelques personnes ne supportent pas le bruit. De toute façon, quand vous êtes très fatigué, ça devient difficile de supporter le bruit. Seulement, voilà, il y a un souci. La plupart des adultes aiment le calme, le silence. Et la plupart des enfants aiment... Et voilà, on n'est pas du tout fait pour vivre ensemble. La plupart des enfants aiment le bruit. Ils parlent très fort, ils crient, ils sautent, ils font toutes sortes de bruits avec leurs jouets. Bref, eux s'en donnent à cœur joie et nous, ça nous fait mal aux oreilles. Certains vont réagir plus à l'allure vestimentaire. Il faut que l'enfant soit comme ci, comme ça, sinon ça ne va pas. Oh, tu ne vas pas sortir comme ça! Pour d'autres, c'est quand l'enfant s'oppose, quand l'enfant refuse. Pour d'autres, on l'a vu, c'est le rangement de la chambre qui pose problème. Pour d'autres, c'est l'attitude, le respect. Pour d'autres, ça va être les notes. Pour chacun d'entre nous, on va hyper réagir à une ou l'autre chose. Nous allons déclencher la réaction de stress pour ceci ou cela. Ça a à voir avec notre tempérament, avec notre histoire pour beaucoup. Ça a à voir bien sûr avec la quantité de fatigue accumulée, la quantité de stress accumulée. On n'est évidemment pas le même parent si on a une bonne sécurité financière, un bon job, des parents autour de soi, toute une communauté chaleureuse autour, que lorsque vos parents, un vient de mourir et l'autre est malade d'Alzheimer, et que vous avez perdu votre travail et que votre mari... Bref, c'est évident que si les agents stresseurs dans notre vie s'accumulent, on ne va pas pouvoir avoir la même disponibilité face à l'enfant. Et il y a les réactions de l'enfant qui déclenchent nos propres réactions. Nous allons être plus sensibles les uns les autres, soit au regard de l'autre. Ben oui, parce que si les autres voient que mon enfant a de mauvaises notes, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, la mère? Ça, c'est étrange aussi. C'est comme si tout ce que faisaient nos enfants, c'était nous qui étions notés. Ils ramènent un 3 en physique, c'est nous qui avons eu un 3 en parentage. Donc, on s'identifie tellement aux résultats de nos enfants qu'on va risquer hyper réagir. C'est sans doute le regard de l'autre qui est tellement important. quand on est à la maison, on va accepter des comportements, mais dès qu'on va être en public, là on va redevenir très autoritaire. Il n'est pas question que tu te comportes comme ça. L'enfant se comporte comme à la maison, mais... Et oui, parce qu'ici il y a le regard de l'autre. Et quelquefois, quand on est face à une crise, par exemple, l'enfant se met à hurler quelque part, au lieu de nous poser la question « Quel est le besoin de mon enfant ?» Je vais retourner autour de moi. « Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Si on a ces blessures narcissiques, si on a peur du regard de l'autre, si on a honte de soi, mais déjà on peut entendre que ça n'a rien à voir avec notre enfant. Ça parle de nous, ça parle de notre histoire, de nos vulnérabilités. Quelquefois, c'est lorsque nous vivons une frustration. Nous demandons quelque chose à l'enfant, l'enfant ne veut pas, ça nous frustre. Et nous ne sommes pas très contents que lui ne tolère pas la frustration, mais alors nous ? Parce que finalement, je lui demande de ranger sa chambre, il ne la range pas. Normalement, c'est son problème, c'est sa chambre. Mais il faut voir comment nous, parfois, on s'énerve. On ne supporte pas du tout la frustration. On a demandé que ce soit rangé, ça doit être rangé, et on se met à hurler. Et on oublie complètement qu'on est un modèle pour notre enfant. Et que si on veut lui enseigner à gérer la frustration, peut-être bien que ce serait utile que nous, on se mette à gérer la frustration. Mais c'est très difficile de gérer la frustration. Parfois, la dépendance même de l'enfant nous pose problème. Un enfant est tout dépendant de nous. Et ça fait peser beaucoup de responsabilités sur nos épaules. Alors il y a des moments où on ne supporte plus. Cette responsabilité, c'est trop fort, c'est trop lourd. Et donc on a envie de... Non, on n'a pas envie, on l'aime, mais... Oh, mais en même temps, c'est pas possible. On supporte plus. Quelquefois, c'est quand l'enfant nous regarde en face et refuse que nous déclenchons notre stress. Quelquefois, c'est quand il nous tend les bras pour demander un câlin. C'est quand il vient vers nous. Et on lui dit, mais arrête! Qu'est-ce qui fait que même les demandes de contact et d'attention de nos enfants peuvent déclencher ça chez nous? Eh bien, on le sait depuis peu. Depuis peu, on a identifié ce qui se passe dans le cerveau d'un parent. On a identifié ça grâce à l'IRM fonctionnel qui permet de regarder en direct ce qui se passe dans le cerveau. On met donc un cerveau de parent sous l'IRM et on présente aux parents une image d'un enfant qui pleure et une autre image d'un enfant qui tend les bras pour demander un câlin. On regarde sur l'IRM fonctionnel et on voit que quand un parent regarde et voit un enfant pleurer ou un enfant lui tendre les bras, immédiatement dans son cerveau, c'est inondé d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est le neuromédiateur de l'amour, de l'attention à l'autre, du « je prends soin de ». Immédiatement dans le cerveau, il y en a partout. Et les zones de « je prends soin de » dans les zones frontales, s'active immédiatement. Nous sommes construits pour répondre aux besoins d'un enfant. Seulement, c'est pas comme ça dans les cerveaux de tous les parents. À la grande surprise des scientifiques, certains parents voyant l'enfant pleurer, ou même voyant l'enfant tendre les bras, dans leur cerveau, il n'y a pas de sécrétion d'ocytocine, ou très peu. Et d'ailleurs, il y a moins de récepteurs à ocytocine que dans le cerveau d'autres parents. Et les zones de « je prends soin d'eux » ne s'activent pas. Les zones qui s'activent, Vous l'avez deviné, ce sont les circuits de stress. Ce qu'ont découvert les chercheurs, c'est que les pleurs d'un enfant, au lieu de déclencher la réponse automatique de caretaking, de prendre soin, ça va déclencher la réaction de stress. Et la réaction de stress, c'est attaque, fuite, figement. Mon enfant pleure, quelque chose en moi réagit et je vais attaquer. Attaquer, ça veut dire gronder, crier, punir, dire tu es grand. Bref, je ne supporte pas la situation. Alors les chercheurs se sont demandé pourquoi, quelle est la différence? La différence, elle est dans l'histoire de chacun. Parce que notre cerveau se construit dans la relation avec nos parents. Et si dans mon cerveau, je n'ai pas assez de récepteurs à ocytocine, c'est parce que quand j'étais petit, mes parents n'ont pas nourri mon cerveau, n'ont pas suffisamment été en lien avec moi. Nous avons besoin, pour développer nos récepteurs à ocytocine, de relations avec nos parents, de se regarder, de se parler, d'échanger, je te souris, tu me souris, d'être dans cette interaction positive. Si, quand j'étais enfant, j'ai reçu l'attachement dont j'avais besoin, si, quand j'étais enfant, j'ai été accueillie à chaque fois que j'avais une émotion forte, si mes parents m'ont donné de la tendresse, m'ont accueillie sur leurs genoux et dans leurs bras, alors j'ai le cerveau naturellement équipé pour savoir prendre soin d'autres enfants ou de mes enfants dans le futur. Mais si mon père, ma mère m'ont rejeté, m'ont ignoré, m'ont envoyé dans ma chambre, m'ont isolé, m'ont puni, m'ont enfermé, m'ont rejeté trop souvent, ce n'est pas une fois ou deux, bien sûr, mais trop souvent, je me suis sentie exclue, non aimée, alors j'ai moins de récepteurs à ocytocine dans mon cerveau et plus j'ai eu peur de mes parents, parce qu'il y a aussi des parents qui frappent, qui tapent, qui humilient violemment, plus j'ai eu peur de mes parents, plus mon amygdale dans le cerveau est hyperactive. Du coup, j'arrive dans la vie d'adulte avec une amygdale hyperactive et très peu de récepteurs à ocytocine. Et donc, quand mon petit bébé est là, ou mon plus grand garçon ou ma grande fille, eh bien, il pleure ou me demande un câlin, ça déclenche instantanément la réaction de stress, ça me ramène dans mon histoire. C'est comme si, à ce moment-là, l'hippocampe interprète la situation que je vois comme le rejet que j'ai vécu enfant. En fait, c'est comme si mon enfant tend les bras pour demander un câlin. Je suis tellement terrorisée par l'idée que cet enfant peut me rejeter, comme je suis habituée à ce que mes parents me rejettent, que du coup, c'est la réaction de stress qui se déclenche. Soit, si la personne a été extrêmement violentée dans son histoire et a refusé de regarder qu'elle était violentée, se dit « j'ai été élevée à la dure, mais voilà, ça m'a fait être quelqu'un de bien maintenant ». Donc, celui-là, quand l'enfant va pleurer, quand l'enfant va tendre les bras, va être autoritaire et va dire « mais non, là, là, là ». Bref, il se met dans une posture autoritaire. Nous sommes autoritaires quand nous n'avons pas assez d'ocytocine dans le cerveau. Nous sommes autoritaires quand nous déclenchons la réaction d'attaque du stress plutôt que les réactions de « je prends soin d'eux ». Il y a aussi des parents qui ont conscience d'avoir été blessés dans leur histoire. Si je me souviens que ça m'a fait mal quand ma mère m'a giflé, que ça m'a fait mal quand mon père m'a humilié, et que je ne veux pas faire ça à mon enfant. Quand, dans le futur, je retrouve mon enfant qui pleure ou me tend les bras, ça va déclencher la réaction, mais je bloque la réaction parce que je ne veux pas taper, je ne veux pas le faire. Mais je suis quelquefois obligée d'utiliser mon cerveau préfrontal pour réussir à avoir l'attitude que je désire avoir. Et c'est pas toujours facile. Je me souviens d'une femme qui venait en thérapie pour réussir à dire « je t'aime » à ses enfants. Elle avait 4 enfants et elle me disait « je crie sur mes enfants tout le temps ». Je ne veux plus crier sur mes enfants. J'ai trop souffert de ça quand j'étais moi-même enfant. Je ne veux plus crier. Elle, en thérapie, on travaillait sur son histoire, etc. Bref, elle sortait de là en disant « Ce soir, je rentre chez moi et je fais un câlin au premier de mes enfants qui se présente. » Elle ouvre la porte et elle se met à crier parce qu'elle voit encore un truc qui ne va pas. Parce qu'il y a un cartable dans l'entrée, parce qu'il y a une chaussure qui n'est pas rangée, et elle n'arrive pas à s'en empêcher. Et nous sommes nombreux comme ça à avoir des réactions de notre histoire que nous n'arrivons pas à tempérer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand même, on peut y arriver. D'une part, les récepteurs à ocytocine, on peut en reconstruire toute la vie. Et donc, si vous avez un autre parent qui n'est pas dans la même forme d'éducation que vous, qui est par exemple plus autoritaire que vous, ça n'est pas parce qu'il a des idées différentes sur l'éducation, c'est juste qu'il manque d'ocytocine dans son cerveau. Donc ce que vous pouvez faire, plutôt que de rentrer dans une argumentation avec l'autre, « Oui, tu fais du mal à notre enfant, etc. » qui culpabilise et qui ne va jamais améliorer que quoi que ce soit, je vais plutôt lui fournir de l'ocytocine. Donc, je vois par exemple, imaginons que ce soit la maman qui soit plus autoritaire, je suis le papa et je vois la maman autoritaire avec l'enfant en train de lui crier dessus, au lieu d'intervenir et dire « Mais arrête de crier sur notre enfant !» qui va stresser encore plus. Bref, je lui dis « Viens dans mes bras. » Je la prends dans les bras et je lui fournis l'ocytocine. Au début, elle me dit « Mais arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Forcément, puisque elle ne supporte pas qu'on la prenne dans les bras. Chaque fois qu'on prend dans les bras quelqu'un qui a manqué d'ocytocine enfant, ça lui rappelle le rejet de ses parents. Donc c'est extrêmement douloureux. Je le répète, douloureux. C'est-à-dire que ça va déclencher les systèmes de douleur dans le cerveau. Ça n'empêche, on tient. C'est au moins 30 secondes, 20 secondes. Le temps que l'ocytocine se remette à circuler. Parce que de toute façon, elle ne peut pas s'empêcher si je tiens avec tendresse et amour. Avec tendresse et amour. Petit à petit, la personne retrouve le calme parce que le simple fait du contact, elle va avoir le cœur qui va ralentir, le stress va diminuer et l'ocytocine va commencer à venir dans son cerveau. Même l'hyperactivité de l'amygdale peut se calmer. On peut apprendre la méditation, on peut apprendre la respiration pour petit à petit calmer notre amygdale. Et donc, avant de savoir comment faire pour ceci, cela, quelles règles, comment je peux faire une situation récurrente, on est bloqué, tout ça. Bref, avant de savoir toutes les choses, comment faire pour les enfants, je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi. Parfois, nous vivons l'épuisement. Il y a aussi nos hormones. On est beaucoup moins tolérante juste avant nos règles. Nous, on va toujours dire que non, que ça n'a aucune espèce d'incidence. Mais en général, nos maris savent. Par contre, nos enfants n'ont pas pigé le truc. Et donc, eux, ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, on ne va pas bien. Parfois, nous avons une émotion refoulée envers quelqu'un et ça va tomber sur notre enfant. Bah, tout à l'heure, je parlais de cette mère qui dit « Mais tu vas pas sortir comme ça !» Et après, elle se dit « Mais qu'est-ce qui fait que je réagis de manière aussi violente envers ma fille ?» Bien sûr, c'est un peu olé olé pour aller chez sa grand-mère, mais quand même, j'ai pas forcément besoin d'être si énervée pour le lui dire. Et en réfléchissant, elle se souvient que le matin, ils avaient prévu, enfin elle avait prévu, un bon temps sympathique avec son mari. Sauf que le mari a passé toute la matinée sur son ordinateur. Elle n'a pas réussi à dire à son mari « S'il te plaît, lâche ton ordi, j'ai envie d'un peu de temps avec toi. » Et du coup, elle a gardé la frustration et c'est la petite fille qui a pris. Parfois, nous vivons un deuil, un trauma. Ce peuvent être des deuils plus anciens, des choses plus récentes. Toutes ces émotions qui ne peuvent pas être dites, tout ça, ça va surcharger notre organisme et nous mener au stress. Le problème, c'est de vouloir être une bonne mère et puis d'interpréter quasiment systématiquement ce qui se passe dans le jeu de pouvoir, comme si nous étions sans arrêt à être c'est soit toi, soit moi qui a raison, nous sommes en opposition. Crise de nerfs, dialogue rompu, insolence, violence, comment ne pas se laisser submerger et perdre la face? Comment perdre la face ou comment ne pas perdre la face? Déjà, c'est intéressant de se dire ça. Comment ne pas perdre la face? Et nos enfants, est-ce qu'on pense aussi que parfois ça pourrait être important pour eux de ne pas perdre la face? En fait, quand on est deux, on est en conflit, c'est vrai que c'est important de ne pas perdre la face. Et si j'ai cette conscience que moi, c'est utile que je ne perde pas la face, c'est drôlement important que l'enfant non plus ne perde pas la face. Et donc, comment faire pour ne pas se laisser submerger? Ce que je sais, c'est que mon problème, il est dans mon amygdale. Mon amygdale est en train de sonner, vraisemblablement lui aussi, puisqu'il est insolent, ça veut dire qu'il est en train d'attaquer, il est sous stress. 98% des comportements de lait qui déborde des enfants, c'est des réactions de stress. Et donc, si lui, il a une réaction de stress, moi je me remets à avoir une réaction de stress en face, on a tous les deux besoin de calmer notre amygdale. Alors, première chose, on est face à face, stop, on fait un léger pas de côté. Juste, hop, je tourne de trois quarts, un quart. Ça va suffire déjà pour diminuer. Je suis très très énervée, je m'assois. Peut-être il n'y a pas de chaise, je m'assois par terre. Rien que ça, ça va calmer le jeu. Et je n'ai pas perdu la face, et l'enfant non plus. Et j'enseigne à mon enfant à gérer le stress. Réguler le stress, c'est dur pour nous tous. Et donc, je suis là, je bouillonne à l'intérieur, j'ai envie de... Je vais plutôt respirer. Je sens le contact de mes pieds sur le sol et je respire. Je souffle. Parce que respirer, quelquefois, nous, on fait... Mais ça, ça ne marche pas. Ça va augmenter notre stress. Surtout aussi, n'essayez pas de respirer par le ventre. Parce que ça, c'est un truc français, enfin, occidental, je veux dire. On a entendu que les orientaux disent qu'il faut respirer dans son hara, il faut respirer dans le ventre. Alors nous, on fait ça. On rentre et on sort le ventre. Mais ça, ça nous met en vulnérabilité émotionnelle plus. Plus vous faites ça, plus vous allez être énervé, en colère, tout ce que vous voulez. Ça va vous faire pleurer, bref, c'est vulnérabilité émotionnelle de faire ça. Ce que disent les orientaux, quand ils disent ventre, ils ne parlent pas de ce bout-là qui fait comme ça. Ils parlent de toute la zone. Et donc pour nous, occidentaux, si on dit ventre, on pense devant. Donc autant penser au dos. Je pense à respirer dans mon sacrum. Et je fais gonfler toute la zone. Là, je vais me sentir plus calme, plus puissant. Et je vais récupérer mon énergie. Pour me calmer dans les moments difficiles, j'ai besoin de calmer mon amygdale. Respirer est une bonne façon de faire. Sentir mes sensations, nommer mes sensations. Je décris ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je décris que j'ai les mâchoires qui se crispent, j'ai de l'énergie dans les jambes, j'ai les bras qui tremblent et les oreilles qui bougent. Bref, je dis un peu d'humour, ça aide aussi. Il y a une autre chose qui calme le stress instantanément. Vous avez une idée? Ce qui calme le chocolat, oui, c'est vrai aussi, ça aide. On peut prendre un carré de chocolat, un carré, et noir, hein. On peut boire un verre d'eau, ça calme le stress. Et ça aussi, c'est important de le montrer à l'enfant. Notre amygdale est hyper réactive, elle est en train d'envoyer adrénaline, cortisol. Qu'est-ce qui calme l'amygdale? Quelle est l'hormone qui calme l'amygdale? L'ocytocine. Donc, je suis là très énervée face à mon enfant qui me résiste. J'ai besoin de contact physique. Je le prends dans les bras. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. En fait, c'est pas du tout contre-intuitif. C'est contre nos automatismes. Mais franchement, nos automatismes, ils nous ont jamais aidés jusqu'à présent, donc on peut les laisser tomber. J'ai l'amygdale qui sonne, j'ai besoin d'ocytocine. Lui, il a son amygdale qui sonne aussi, il a besoin d'ocytocine. Et donc, si on arrive à se prendre dans les bras, on a des chances d'arriver à s'en sortir, et tout le monde garde la face. Sinon, je peux caresser le chat. Quand vous êtes dans l'avion, ah oui, c'est pareil, j'ai plus aucun effet de surprise avec mon machin. Bon, ça fait rien. Vous êtes dans l'avion. L'hôtesse de l'air prend la parole et elle dit « En cas de dépressurisation, et c'est vrai que dans la famille, ça dépressurise souvent, donc en cas de dépressurisation, les parents, les personnes, les adultes accompagnés d'enfants mettent le masque à oxygène d'abord sur soi. Après seulement, on s'occupe de mettre le masque à oxygène à l'enfant. » Nous, dans le quotidien, on fait le contraire. Il y a une situation bizarre, bon, apparemment, c'est des choses sur les enfants partout. Comment faire pour que l'enfant passe moins de temps devant les jeux vidéo? Donc, j'ai mon gamin devant le jeu vidéo, immédiatement, stress. C'est sûr, les jeux vidéo, c'est comme s'il m'exclut, là, hein. Je ne me sens pas dans la relation, donc ça va me faire hyper réagir. Qu'est-ce que je vais faire? En général, je vais lui dire « Tu es privé de ceci, cela pendant 3 semaines, etc. » Je m'occupe de lui. Alors que j'ai d'abord besoin de calmer mon cerveau et de réfléchir à ce que je peux faire et à ce qui se passe. Donc, d'abord, je mets le masque à oxygène. Une situation difficile, masque à oxygène. Je vais boire un verre d'eau, je regarde la nature, une plante verte si j'ai pas de nature chez moi, je caresse le chat, je prends un autre enfant dans mes bras pour l'instant, parce que si je vais directement à celui qui est sur l'ordinateur, c'est pas sûr. Quoique, ça peut. Une fois que j'ai calmé mon stress, et si je guéris mon histoire, c'est encore mieux. Du coup, j'ai calmé mon stress. Plus aucun comportement de mon enfant ne va avoir le pouvoir de me faire hyper réagir. Et du coup, je peux réfléchir plus sainement à la situation, analyser la situation. On peut à ce moment-là seulement se poser des questions et on va être du coup dans un état qui va permettre à l'enfant de nous parler. Si je suis très énervée et que j'interviens sur l'enfant, arrête immédiatement ton jeu vidéo. L'enfant, il me regarde et dit, ça y est, elle a encore disjoncté. Il n'est pas motivé du tout. Et là, pour le coup, on perd la face sans arrêt. Hein. Donc, si j'arrive à boire mon verre d'eau, à respirer, souffler, etc., d'abord, il voit que je fais tout ça avant de lui parler. Et là, il a beau être sur son jeu vidéo, il commence à avoir du mal à se concentrer. Et il est intéressé, parce que même si c'est passionnant son jeu vidéo, ses parents, c'est toujours bien plus important. Et s'il perçoit que son parent fait des choses pour réussir à lui parler de manière appropriée, respectueuse, il se sent touché à l'intérieur. Il peut mesurer l'importance qu'il a à ses yeux. Et donc, du coup, il risque de se tourner, de lâcher la vidéo et de regarder maman ou papa. Si je désire que mon enfant me regarde, c'est vraiment important que je sois digne de son regard et que je lui montre l'importance qu'il a pour moi. Chaque fois que je crie sur un enfant, que je le punis, chaque fois que... ou même que je lui passe tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il me demande des patins à roulettes, puis des rollers différents, puis des bottes ceci, puis des trucs, et chaque fois je donne. Là non plus, je ne l'entends pas. Je lui réponds tout le temps sur la surface des choses, l'enfant ne se sent pas aimé. L'enfant, pour se sentir aimé, il a besoin de mesurer que je m'intéresse pour de vrai à l'intérieur de lui, que je fais attention à la manière dont je vais construire mes phrases pour lui parler, que je suis centré, attentif, et que je vais communiquer avec lui en étant attentif. Nous avons beaucoup la tendance à interpréter les choses dans un terme de jeu de pouvoir. Quasiment systématiquement, on va dire des choses du style « il me fait un caprice », comme s'il me le faisait à moi. Quelquefois, on va carrément à dire « elle me fait une grippe ». « Elle me nargue ». Nous avons tendance à interpréter le comportement de l'enfant comme lié à nous. Par exemple, une petite fille qui cherche à ouvrir un placard, je viens de lui dire « mais tu n'ouvres pas ce placard !» Et immédiatement, la petite fille, elle ouvre le placard en me souriant. C'est vrai ça, on a tous cette expérience-là. Si on dit à un enfant de 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, « tu ne fais pas ceci, cela », immédiatement, il n'attend pas 2 heures, hein. Presque tout de suite, il le fait, et avec le sourire. Tu ne traverses pas. Immédiat. Si c'est si général, on pourrait peut-être réfléchir, nous les parents, et se dire qu'il y a peut-être une raison. Si les enfants de cet âge-là font ça, nous, adultes, on se dit, la preuve, il me nargue. Mais non, il n'est pas en train de me narguer. C'est juste que, comme c'est un enfant qui n'a pas la capacité de se faire des images mentales, si je lui dis « tu n'ouvres pas ce placard », c'est comme si je vous dis à vous maintenant « ne voyez pas, ne pensez pas à une girafe ». Une girafe qui serait en train de manger les feuilles. Vous voyez comme vous me désobéissez là tout de suite ? Pourtant, je vous ai demandé de ne pas y penser. Hein ? Vous me narguez. Donc, Les parents, comme on a appris à poser des interdits, tout ça, on se dit qu'il faut poser des interdits, donc tu ne touches pas à ceci, cela. L'enfant n'entend pas la négation, il fait comme nous avec la girafe. Sauf que nous, c'était juste une image, et lui, il ne sait pas se faire des images encore dans sa tête. Donc, il est encore dans une intelligence qu'on appelle sensorimotrice, c'est-à-dire qu'il passe dans ses gestes. Du coup, il va le faire. Je viens de lui dire « ne touche pas ce placard », alors lui, il entend « touche placard ». Et il le fait doucement, délicatement, en me souriant, c'est-à-dire « tu vois, regarde maman, j'essaye de faire exactement ce que tu me demandes ». Et nous, si on avait tout notre cerveau, on lui dirait « oh, bravo ma chérie, c'est exactement ça que je t'ai demandé de ne pas faire, et donc maintenant, le placard reste fermé ». Ah oui, parce que placard fermé, ça va. Ah, le placard reste fermé, ok. Mais si je dis ne fais pas ceci, cela, c'est sûr que c'est comme si je donnais la consigne à l'enfant de le faire. Elle me fait une crise, elle me fait une otite. Non, l'enfant n'est pas en train de me chercher. L'enfant, il est juste au service de ses propres besoins. L'enfant, il réagit avec les capacités de son cerveau. L'enfant, il est souvent, lui aussi, sous stress. Tous les comportements qu'il a de attaque, fuite ou figement sont des comportements de stress. L'approche empathique, c'est se dire le comportement de l'enfant, c'est pas ça le problème, ça c'est seulement le symptôme. Donc j'ai besoin de comprendre le problème qui est en dessous. Où est le gaz pour pouvoir éteindre le gaz ? Le souci, c'est que trop souvent, le réservoir de nos enfants est vide, le réservoir d'adaptation, le réservoir qui aide à gérer le stress. Un petit tip de parentalité, jouons avec nos enfants. Une étude a été menée sur des adolescents et des mamans, désolé pour les papas, ce serait pareil avec des papas, mais là en l'occurrence, ils ont pris dans leur étude que des mamans. Pendant 4 mois, des mamans ont eu à jouer pendant une demi-heure par jour avec leurs adolescents. Un jeu de Jenga, c'est des petits bouts de bois qu'on met les uns sur les autres, on fait une tour, bref. Et une demi-heure par jour, et on a testé les hormones dans leur sang. Dans le sang des enfants qui jouaient une demi-heure par jour, il y avait très peu de cortisol, l'hormone de stress. Dans le sang des enfants qui ne jouaient pas, du cortisol. L'étude a duré 4 mois. Sur ces 4 mois, il s'est passé des tas de choses et on a pu corréler les événements traumatiques, par exemple un décès, un examen, un accident, un déménagement, une copine qui s'en va, bref, différents événements stresseurs. Et on regarde ce qui se passe dans le sang de l'enfant. Même face à des agents stresseurs majeurs, quand maman joue avec l'enfant pendant une demi-heure par jour, il y a très peu de cortisol. Les enfants dont les mamans ne jouaient pas, jouent, le cortisol monte très fort. Quand vous jouez une demi-heure par jour avec votre enfant, vous maintenez son taux de cortisol très bas. Ça veut dire que vous lui fournissez les ressources émotionnelles pour qu'il puisse gérer le stress. Et s'il sait gérer le stress, il a nettement moins, bien évidemment, de comportements d'attaque, de fuite ou de figement. Et puis, comme nous on joue aussi avec eux, eh bien, nous aussi, on est rempli d'ocytocine et du coup, on va moins avoir d'attaque, de fuite ou de figement. Il est déjà tard, mais je ne vous ai pas encore suffisamment expliqué pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire exactement ce que notre maman nous a fait. On a vu le stress, l'ocytocine, mais pourquoi on fait quelquefois le même geste ? Pourquoi on va dire la même insulte à notre gamine que notre mère nous a dit ? parce que je suis là. Qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil avec le verre d'eau? Le verre d'eau de mon enfant tombe, stress. Mon cerveau cherche une situation dans le passé qui ressemble pour pouvoir me trouver la solution. Qu'est-ce que je dois faire dans cette solution, dans cette situation? Et mon cerveau scanne dans mon passé jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où il y a une petite lumière qui clignote, un endroit où, bien sûr, j'ai encore mal, un endroit où il s'est passé le même genre de choses. Et je me retrouve inconsciemment, bien sûr, projetée dans mon histoire à revivre ce que je vivais. Peut-être moi j'ai renversé mon verre, peut-être j'ai cassé un vase, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à maman, et à ce moment-là, maman m'a hurlé dessus. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui m'a donné une gamine pareille ?» Et je me suis sentie toute terrorisée. Le cerveau a donc la mémoire de toute la situation, mon émotion et celle de ma maman. Parce que nous avons des neurones miroirs dans notre cerveau, des neurones qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent. Et donc, l'enfant que j'étais voit maman furieuse et j'éprouve en même temps ma détresse et ma terreur, et mes neurones me permettent de percevoir aussi ce qui se passe à l'intérieur de ma maman à ce moment-là. Ensuite, le cerveau a un choix à faire. Dans lequel de ces personnages je rentre? Le cerveau choisit toujours là où ça fait le moins mal. Si j'ai peur de ressentir de nouveau la douleur que j'ai ressentie enfant, alors le cerveau va choisir d'être la maman et je vais sentir à l'intérieur de moi exactement les mêmes sensations que sentait ma maman à ce moment-là, et c'est toutes ces sensations-là que je vais ramener dans mon présent, et donc c'est ce qui me fait crier à ce moment-là « Qu'est-ce qui m'a donné une gamine pareille ?» Pour arriver à retrouver mon cerveau intact, j'ai à réussir à m'identifier et à ressentir la peur que j'ai eue quand j'étais enfant, la honte que j'ai eue quand j'étais enfant dans cette situation-là précise. Donc, quand je suis en plein milieu d'une situation difficile, je suis face à un enfant qui se sent moins pris en charge et qui demande « Pourquoi ma petite sœur a plus de câlins ?» Une panique. « Qu'est-ce que je peux bien faire ?» Eh bien, au lieu de réagir, je vais aux toilettes. On a toujours le droit d'aller aux toilettes. Sauf quand on a un tout petit nourrisson. Mais bon. Et là, je respire avec le dos. Ou alors, je vais à la cuisine, c'est mieux pour avoir un verre d'eau. Bref, je me calme, je mets mon masque à oxygène. Et une fois que je suis un peu plus calme, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance à moi ? Quand j'ai vécu le même genre de situation. Et je, au lieu de ressentir et d'écouter trop ce que ma mère vivait, mon père vivait, je ressens ce que j'ai ressenti enfant. J'envoie de la tendresse à l'enfant que j'étais et je me guéris comme ça. Une fois que c'est guéri, je peux retourner vers mon enfant et lui fournir ce dont il a besoin à ce moment-là, vraisemblablement de l'amour, de la liberté. Il a besoin de considération, il a besoin de toutes sortes de choses, il a besoin d'aide, il a besoin d'apprendre des compétences, il a besoin de toutes sortes de choses que je suis devenue capable de lui donner, parce que je suis redevenue l'expert de mon enfant, parce que j'ai retrouvé mon cerveau. Merci. avant de redonner le micro, il y a dans le fond là-bas, je pense, Laurence, mon amie et élève Laurence Forge, pour où elle est là-bas, voilà, qui organise mes activités en Suisse et qui co-organise, organise des grammaires des émotions, des stages sur les émotions pour comprendre mieux nos émotions et aller guérir l'enfant à l'intérieur de nous, à Crébérard et à Sornetan. Et puis il y a une autre de mes élèves, Kirsten, qui est quelque part aussi, qui elle fait des ateliers de parents et qui travaille en Suisse elle aussi. Et donc si vous avez... Voilà, elle est là. Et tu as laissé aussi tes papiers, je crois. Voilà. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin sur ce chemin de parentalité. Merci.
Merci beaucoup. Alors, j'ai juste... Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de tout ce qu'on vient d'entendre. En tout cas, moi, je peux vous dire que même en tant que grand-père, je crois que j'ai constaté que je n'avais pas fini de grandir. Il y a encore pas mal de choses à travailler. Et puis, je vous remercie de cette intense réflexion. Voilà, alors, on avait dit tout à l'heure qu'on allait passer au livre, à la vente des livres, si vous êtes intéressés. Les questions que vous avez posées, comme moi, tout faux, sont là. Donc, maintenant, on va décider qu'il n'y en a plus. Je crois que Madame Filioza nous a livré son message. Alors, je vais vous laisser vous organiser en fonction de votre disponibilité, de votre temps et de vos envies, à savoir soit vous passez par là, soit vous discutez encore entre vous, soit on se dit au revoir et puis vous n'oubliez s'il vous plaît pas de mettre un petit quelque chose en passant dans notre collecte. Oui.
Et les questions maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, vous devez pouvoir y répondre. Et donc, pour ceux qui ne se sentent pas dans l'urgence de rentrer chez eux, vous pouvez très bien vous remettre par petits groupes de 6 et pendant que certains vont acheter les livres, etc., continuer de discuter un petit peu et de résoudre ces différentes questions qui sont là.
Voilà, tout est dit, je crois, mesdames, messieurs. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention et excellente fin de soirée. Bon retour chez vous. Merci.